from NPR News.
MCT is on in the house.
Haliam Radio Rosana Piparis.
Produce get in the radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. François Geffrier.
Il est entré dans l'actualité du monde il y a une douzaine d'années. Il a mené des opérations terroristes à travers la planète. A connu son heure de gloire quand il avait tous les attributs d'un État. Daesh, ou l'État islamique, n'a jamais cessé de faire parler de lui et a encore frappé récemment. On dresse la cartographie de cette organisation désormais éclatée géographiquement, mais toujours menaçante, avec notre invité dans une seconde. Dans Le Monde à l'endroit, Louise Baudet nous parle du nouveau pirate des Caraïbes. Ce n'est pas un énième film. C'est le surnom donné au Venezuela à Donald Trump qui fait saisir des bateaux ou les bombarde, ça dépend. Le reportage ce soir à Venise, la ville s'est résolue à mettre des radars automatiques pour flasher les excès de vitesse des bateaux sur les canaux.
La ligne verde, non, quindi l'alga che arriva.
Tu vois la ligne verte? Ce sont des algues laissées par les vagues. Il y a une fente entre deux pierres. C'est le mortier qui a été retiré par la houle. Nous sommes en train d'effriter Venise.
Il s'agit donc de ne pas faire de vagues au sens propre, nous dira Bruno Duvic à Venise. On mettra aussi en lumière l'actualité du monde restée sous les radars. Alice Moreno nous parle notamment d'une bataille culturelle en cours au Brésil. La célèbre tongue, c'est de droite ou de gauche? Réponse tout à l'heure. Et puis comme chaque mardi, balade dans les arcanes de l'Europe, c'est Caroline au Pays des 27, Caroline Gillet avec le service qui traque les jouets non conformes aux règles et parfois dangereux. De quoi éviter intoxication ou incendie domestique dès le cadeau déballé, ce serait dommage. Vous êtes bien sur France Inter, on passe ensemble un jour dans le monde jusqu'à 19h.
We're not going to let the ISIS-inspired terrorists win. We won't let them divide our society and we'll get through this together.
L'Australie en deuil il y a 8 jours avec cette attaque ciblant des juifs et faisant 15 morts et le Premier ministre australien qui déclare « Nous ne laisserons pas les terroristes inspirés par l'État islamique gagner. Nous ne laisserons pas diviser nos sociétés et nous surmonterons cette épreuve ensemble. » Alors ce n'est pas qu'on veuille remuer des souvenirs encore si douloureux, 10 ans après les attentats du 13 novembre, point culminant en France du terrorisme islamiste avec 132 morts. Ce qui nous pousse à nous pencher sur le groupe État islamique ou Daesh, ça veut dire la même chose, c'est parce que lui nous donne régulièrement de ses nouvelles et émerge de ci, de là dans l'actualité du monde, de ci en Australie sur une plage, de là en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Bonsoir Wassim Nasr.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes et je précise que vous étiez en Syrie il y a encore quelques jours. Pour ceux qui seraient restés 10 ans en arrière, Daesh, c'était un véritable État, en quelque sorte, un État islamique, un territoire, une administration, des impôts et bien sûr une armée. Ce n'est plus du tout le cas, on en est loin aujourd'hui.
Ah oui, ce n'est plus du tout le cas depuis 2019, quand l'État islamique, dans sa version, disons, califale territoriale, a été défait, à travers les efforts donc de la coalition, dont la France faisait partie. Mais en même temps, ou quelques années avant, évidemment, l'État islamique s'est exporté, disons, de la zone levantine, donc Irak, Syrie, vers d'autres régions, comme l'Afghanistan, comme le Yémen, la Somalie, l'Afrique, le Sahel en Afrique, les Philippines, etc. Donc c'est devenu quelque chose, c'est une idée ou une idéologie, disons, qui s'est exportée bien au-delà du territoire califal de l'État islamique, qui reste, disons-le, une parenthèse dans l'histoire de l'État islamique qui a été créée en Irak en 2006.
Une parenthèse
califale, oui. Entre 2014 et 2019.
Donc 5 ans quand même de califat, effectivement, et vous le disiez, vous commenciez à parler
de
l'État islamique au Khorasan, on va y venir sur le Pakistan, l'Afghanistan, mais dans la Syrie d'aujourd'hui que vous connaissez bien, et vous étiez donc il y a encore quelques jours, un an après la chute de Bachar al-Assad, est-ce que Daesh, qui occupait une partie de ce territoire-là, on parlait aussi à l'époque d'État islamique en Irak et au Levant, Daesh est-il en reconquête? Comment le pouvoir de Damas d'aujourd'hui, avec le président Ahmed al-Shara, perçoit-il Daesh?
Ce n'est pas du tout une dynamique, disons, de reconquête. Il y a une activité, disons, d'attaque, d'opération dans la zone tenue par les forces démocratiques syriennes, donc le nord-est, qui est constante. Donc avant, après la chute d'Assad, ça n'a pas bougé. Mais le changement qu'il y a eu avec la chute d'Assad, c'est que la zone de l'Abadia, ou le désert, en tout cas, entre la Syrie, l'Irak et la Jordanie, que j'ai traversé pour le coup pendant ce voyage, mais l'été dernier, donc la zone de Palmyre, des Azores, Boukamal, etc., qui était une zone d'activité, disons, de l'État islamique quand Assad était toujours au pouvoir, parce que la couverture aérienne de la zone, si vous voulez quelques détails, n'était pas bien assurée par les Russes, très différente de la couverture aérienne du Nord-Est assurée par les Américains et les Français pour le coup. Donc les Thaïsiens pouvaient se mouvoir dans cette zone de manière assez libre. Mais il était toujours sous pression. Ça veut dire quand Assad est tombé, il y a eu des frappes américaines et françaises dans la Badia contre les secteurs connus d'activité de l'État islamique. Et en fait, ceux qui étaient dans les rangs de l'État islamique encore au moment de la chute d'Assad, donc ceux qui ont fui Baghouz en 2019, des très jeunes qui ont grandi dans le désert, etc., sans vous noyer dans les détails de chaque personne, beaucoup se sont, ont fui vers les villes, donc ont fui le désert vers les villes, beaucoup ont été démobilisés et d'autres ont gardé une volonté, disons, de déstabiliser le nouveau pouvoir en Syrie, avec lequel il y a une dette de sang, disons, qui remonte à 2013. D'où plusieurs opérations d'assassinats contre des représentants, disons, du nouveau pouvoir, que ce soit dans le système judiciaire, police, armée, etc. Et même une faction liée à l'État islamique qui a commis l'attentat de Damas l'été dernier contre l'église Marlias. Donc tout ce qu'ils peuvent faire pour déstabiliser le nouveau pouvoir, ils le font. Le dernier acte qui a été très médiatisé, disons, ça a eu lieu à Palmyre.
Il y a quelques
jours.
Ça n'a
pas été revendiqué, voilà, ça n'a pas été revendiqué par l'État islamique. Mais on pense que la personne a été inspirée par l'État islamique. D'ailleurs, l'État islamique a salué l'acte sans pour autant le revendiquer, parce que ça s'inscrit dans le registre de ce qu'on appelle du « green on blue », ça veut dire des forces supposées être alliées. Un membre de ces forces retourne son armement contre l'armée américaine en particulier. Il y en a eu beaucoup en Afghanistan.
Un peu comme 150. Des infiltrés, en quelque sorte, des agents doubles.
Ou même, parce qu'on ne sait pas quelles étaient les motivations, en fait. Ça peut être les Américains qui agissent dans cette zone depuis 2003, ont tué un membre de sa famille. Mmh. Ça se trouve, c'est une vengeance personnelle. Ce n'est pas forcément quelque chose de réfléchi et de pensé par l'organisation.
Et de téléguider du sommet, L'une des questions qu'on peut se poser, c'est vous parlez de ce qui se passe en Syrie et donc de cette poche quelque part qui reste des forces de l'État islamique. Mais est-ce que tout cela répond à, j'allais dire, une organisation centrale, à un chef tout puissant? Et on sait qu'il y a aujourd'hui un calife, mais à voir d'où il opère et quelle est son autorité sur les différents États islamiques.
Ben écoutez, ils ont sur les filiales, donc il y a une autorité évidemment, mais l'autorité du calife qui s'appelle aujourd'hui Abu Hafs, on n'a pas son visage parce que les cinq derniers ont été tous tués entre la Syrie et
de façon assez rapprochée d'ailleurs.
En Syrie. Voilà, de façon à se rapprocher, dont certains par l'actuel nouveau pouvoir en Syrie, d'autres par les Turcs, etc. Donc on ne connaît pas son visage pour des raisons, disons, sécuritaires. Mais ce qu'il faut imaginer, en tout cas, ce n'est pas propre à l'État islamique, c'est propre à tous les mouvements djihadistes, le chef donne la direction stratégique, disons, et après, à chaque filiale, d'essayer d'atteindre cet objectif avec ses propres moyens. Donc ce qui fait que ce n'est pas centralisé, mais ce qui leur donne une liberté d'action, une résilience assez importante pour survivre à toutes les frappes militaires. Sinon, une fois le chef tué, l'organisation s'effondre.
Oui, et ça, je suis frappé du fait que vous parlez de filiales pour parler de l'État islamique. Si on prend la filiale en Asie centrale, ce groupe État islamique au Khorasan, parfois on dit EIK, donc principalement sur l'Afghanistan, peut-être un peu sur le Pakistan, c'est vraiment le bastion actuel de Daesh. C'est là que se concentre le plus grand nombre de combattants. Et c'est peut-être là qu'il y a, du point de vue de Daesh, une forme d'espoir de recréer un califat.
Bah écoutez, je ne dirais pas ça, parce qu'en fait, quand ils ont eu une sorte d'assise territoriale en 2015 à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, ils ont été tellement frappés par les Américains, les talibans et l'ancien gouvernement afghan, qu'ils ont perdu ce territoire. Mais aujourd'hui, ils ont gardé une capacité de nuisance, juste pour schématiser un petit peu, c'est comme une boîte de ressources humaines, disons, qui met en contact des russophones, donc qu'ils soient des anciennes républiques soviétiques, ou que ça soit du Caucase ou d'autres régions dans le monde, pour monter des opérations et frapper à l'extérieur du territoire afghan ou pakistanais. Par exemple, en 2000, il y a eu une grosse attaque en Iran, puis il y a eu l'attaque de Moscou l'année dernière.
En janvier 2024, puis en mars 2024, effectivement.
Voilà, exactement. Et il y a eu une tentative déjouée en France juste avant les JO. Où c'était une toute petite cellule. Avec
donc là, on a à nouveau vraiment cette affaire d'attentat ou d'attaque projetée.
Cette volonté.
Depuis un territoire, on entraîne des combattants pour qu'ils aillent ensuite mener des attaques spectaculaires à l'étranger.
Non, je n'ai pas dit ça. Pas forcément on entraîne. Parce que, regardez, ça veut dire pour le 13 novembre, l'attentat du 13 novembre, c'est exceptionnel dans tous les sens du terme. Ils n'ont pas la capacité de projeter depuis l'Afghanistan. Ils ont la capacité de mettre en contact des russophones qui peuvent être de par le monde. Vous voyez, donc c'est très différent. Par contre, l'endroit où ils ont vraiment aujourd'hui une assise territoriale et un potentiel de développement très important, c'est en Afrique, en particulier au Nigeria, lac Tchad,
oui,
et dans le Sahel africain, donc la zone des trois frontières entre le Niger, le Mali, le Burkina Faso, et la jonction qui s'est faite par ailleurs, hein, entre la filiale qui est autour du lac Tchad et la filiale qui est dans la zone des trois frontières. Et donc là, le potentiel de développement territorial est très important, et ils ont une assise territoriale, mais qui reste incomparable avec ce qu'ils ont eu au Levant. Pourquoi ? Parce que ce n'est que de la brousse et que des villages. Donc il n'y a pas de zone urbaine tenue aujourd'hui par l'État islamique dans ce secteur.
Alors vous continuez de dérouler la carte effectivement de l'État islamique aujourd'hui, fin 2025. On a parlé du Khorasan, l'Afghanistan. Vous parlez à l'instant des trois frontières, Mali, Niger, Burkina Faso et puis le Nigeria. Est-ce que ces différents... Enfin, quelles sont les ressources de ces différents foyers de l'État islamique ? Comment se financent-ils ? Est-ce qu'ils reçoivent de l'argent de l'étranger ? Est-ce qu'ils réussissent à ponctionner des ressources sur place ?
Écoutez, c'est très différent par rapport aux périodes. C'est-à-dire, quand l'État islamique avait son califat territorial, il arrivait à envoyer de l'argent vers ses filiales. Il avait, par ailleurs, le bureau des provinces lointaines, tel qu'il l'appelait. Donc, ça concernait l'Afrique, les Philippines, etc. Par exemple, bataille de Marawi en 2017 aux Philippines, elle a été financée par l'État islamique central à hauteur de 100 000 dollars. Donc, ce n'est pas des sommes énormes, mais la bataille a duré quand même 6 mois. Pour les sources de financement principales pour ces filiales, c'est ce qu'on appelle la microéconomie. Par exemple, autour du lac Tchad, c'est le commerce du poisson, taxer les commerçants, le trafic licite ou illicite, etc.
Donc, entre du marché noir local, du racket aussi.
Voilà. Exactement, voilà. Et même parfois, et c'est rare, en tout cas pour l'État islamique, mais ça arrive, les otages. C'est plutôt là, pour le coup, Al-Qaïda qui se finance sur les rançons d'otages. Par exemple, une des dernières rançons qui a été touchée au Mali, pour le coup, par Al-Qaïda, elle était à la hauteur de 50 millions de dollars contre un ressortissant émirati, donc détenu pour à peu près un mois, et puis libéré. Donc, vous voyez, quand on met cette somme à l'échelle de la région, ça peut les faire tenir des années. Et aujourd'hui, l'État islamique a, par exemple, une otage suisse une otage suisse et un otage américain et une otage autrichienne, toujours dans la zone des trois frontières.
Vous qui êtes expert, Wassim Nasr, de ces mouvements djihadistes, je rappelle que vous êtes journaliste à France 24, aujourd'hui, quelles sont les motivations de ces différents groupes de Daesh ? Quels thèmes émergent ? Ils se battent contre quoi et au nom de quoi ? Et ça va peut-être nous ramener à l'attaque de Bondi Beach d'il y a quelques jours.
Bah écoutez, en tout cas, il faut imaginer qu'il faut à chaque fois des griefs bien réels locaux, qui se greffe à une idéologie qui est celle de l'État islamique pour aboutir à ce projet, disons, commun, entre guillemets, et qui use de la violence et du terrorisme. Donc, ils ne peuvent pas s'implanter sur rien. À chaque fois, en tout cas en Afrique, ils se sont implantés en ayant l'allégeance de groupes préexistants. Par exemple, en particulier en République démocratique du Congo, il y avait un groupe qui s'appelle les ADF, qui avouait allégeance à l'État islamique. Et aujourd'hui, ils déroulent le playbook, disons, de l'État islamique à la lettre, et ce qui se traduit sur le terrain avec des attaques en continu, en particulier contre toutes les communautés chrétiennes en RDC, en Mozambique, c'est pareil.
Et donc on est dans une logique un peu de purification, de lutte contre aussi les apostats.
Voilà, exactement. Donc leur but final, c'est le califat, instaurer un califat. Et quand ils arrivent à avoir l'allégeance de groupes sur zone, ben, ces groupes sur zone, en retour, appliquent à la lettre leurs préceptes. Et on l'a vu très clairement dans les attaques contre les chrétiens en RDC et au Mozambique en particulier, un tout petit peu au Nigeria, même si ça a eu beaucoup de publicité des attaques contre les chrétiens au Nigeria, mais c'est pas là qu'ils sont le plus visés. C'est plutôt en RDC et en Mozambique. Par contre, ce que vous avez mentionné par rapport à l'Australie, là aussi c'était une attaque inspirée et pas commanditée parce que l'État islamique ne l'a pas revendiqué. Et quand on voit, et ça nous permet de faire une comparaison avec les autres attaques, quand on voit que c'est un père et son fils, donc c'est pas une cellule développée.
C'est très singulier comme profil.
C'est très singulier, voilà. Donc ils n'ont pas d'attache vraiment organisationnelle avec le groupe. L'armement était létal, mais était rudimentaire. Ils se sont attaqués à un public innocent dans un rassemblement public et qui a eu une certaine publicité avant. Donc ce qu'on peut qualifier de cible facile. Donc c'est incomparable avec l'organisation qui a été nécessaire pour monter un 13 novembre et envoyer des djihadistes depuis la Syrie avec les réfugiés pendant 3 mois. jusqu'en Belgique et des gens qui sont capables d'aller jusqu'au bout de leur geste et oui. de mourir en kamikaze dans les rues de Paris. Idem, par exemple, pour le 11 septembre.
Un mot très rapide, Wassim Nasr. La figure de l'État d'Israël, d'une part, les États-Unis de Donald Trump, d'autre part, est-ce que ce sont là un peu deux grands satans, toujours, pour les combattants de Daesh ?
Ah ben oui, absolument, absolument. Surtout maintenant que l'administration Trump soutient la nouvelle administration syrienne à Damas, parce que Ahmad al-Sharaa, son contentieux avec l'État islamique remonte à 2013, et c'est à cause de lui, voilà, et c'est à cause de lui que la guerre a éclaté dans les rangs djihadistes entre Al-Qaïda et l'État islamique. Donc là, pour eux, ça confirme, disons, toute l'animosité qu'ils ont vis-à-vis d'Ahmad al-Sharaa et vis-à-vis des Américains.
Merci beaucoup.
Et pour les Israéliens, c'est évident, ils appellent à attaquer les Israéliens et la communauté juive. Pas que les Israéliens partout dans le monde de manière continue et surtout aussi depuis la guerre à Gaza, les appels se sont accentués. Donc ce qui est étonnant et tant mieux qu'il n'y a pas eu plus d'attaques que ce qu'on a vu au nom de l'État islamique contre la communauté juive.
Wassim Nasr, invité d'Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. 18h33, Louise Baudet de la rédaction internationale de Radio France nous a rejoint. Bonsoir Louise.
Bonsoir.
Le monde a le droit dans un instant avec vous.
Qui est le plus grand pirate des Caraïbes ? Vu de Caracas, aucun doute, c'est Donald Trump.
Le monde a l'endroit, c'est juste après Shy Girl de Holly Cook, sorti cet automne. Vous êtes bien sur France Inter. Le reggae moderne de Holly Cook sur France Inter, son titre Shy Girl, à l'instant déjà 20 ans de carrière pour celle qui est la fille du batteur des Sex Pistols, Paul Cook. Holly Cook qui sera en concert en France en avril.
How dare you?
The world has changed.
Le 18-20. François Geffrier.
Et le monde à l'endroit, Louise Baudet, vous nous expliquez pourquoi l'escalade en cours dans les Caraïbes exhale une forte odeur de pétrole.
Ouais, Donald Trump grimé en pirate des Caraïbes, cache-œil, tricorne et tête de mort. C'était hier dans les rues de Caracas, manifestation de motards pro-Maduro, tout klaxonne dehors, très remonté contre le Dracula du pétrole brut. Autre qualificatif peu flatteur pour le président américain qui fait saisir des pétroliers transportant du brut vénézuélien et ordonne des frappes contre des bateaux qu'il accuse de transporter de la drogue. Bilan provisoire, 105 morts sans autre forme de procès. Le régime madouriste dénonce des exécutions extrajudiciaires et de la piraterie d'État. Le Conseil de sécurité de l'ONU est saisi, il se réunit ce soir.
L'escalade est continue, elle vise un changement de régime à Caracas.
Oui, escalade verbale. Tout d'abord, il serait sage pour Nicolas Maduro de partir, a menacé la nuit dernière Donald Trump. S'il joue les durs, ce sera la dernière dernière fois qu'il pourra jouer les durs. Escalade commerciale ensuite avec ce blocus total imposé aux navires transportant du pétrole vénézuélien. Escalade militaire enfin avec cette gigantesque armada déployée en mer des Caraïbes. Le plus grand porte-avions du monde est sur zone, se rengorge le président américain. Pression maximale officiellement pour lutter contre le trafic de cocaïne et le super narco Nicolas Maduro. Mais c'est bien le changement de régime qui est recherché. Confidence dans les colonnes de Vanity Fair signée Suzy Wiles, la directrice de cabinet de Donald Trump. Il veut continuer à faire exploser des bateaux jusqu'à ce que Maduro capitule.
Mais alors vous disiez Dracula du pétrole brut. Est-ce que ce que convoite le président américain, c'est aussi le pétrole ?
Ben oui, et cette fois il en fait lui-même l'aveu. Ils nous ont pris tout notre pétrole et nous voulons le récupérer. Pour comprendre, il faut d'abord rappeler que le Venezuela possède les plus grandes réserves mondiales connues de pétrole brut. Et il faut revenir un siècle en arrière, des années 20 jusqu'au milieu des années 70, le pétrole vénézuélien est exploité par les États-Unis. De nombreuses raffineries américaines sont conçues pour traiter le brut tiré du sous-sol de l'île des Caraïbes. Première rupture en 1976, le Venezuela nationalise le secteur et cette réappropriation, elle est parachevée par Hugo Chavez et sa révolution bolivarienne. On est au début des années 2000, Chavez est l'ennemi numéro un des États-Unis qui multiplie les manœuvres de déstabilisation contre lui, puis contre son successeur, Nicolas Maduro.
Alors on le voit, Donald Trump est passé à la vitesse supérieure. Jusqu'où peut-il aller ?
Ben c'est toute la question. Le président américain affirme ne pas exclure une guerre directe avec Maduro et fait de la réaffirmation du leadership des États-Unis sur l'Amérique latine une priorité stratégique. Mais pour déclencher une intervention terrestre, eh bien il doit obtenir l'aval du Congrès américain où l'opposition met en cause la légalité de ses frappes. Jusqu'ici, sa pression pourtant maximale n'a pas porté ses fruits face à un régime madouriste très résilient qui tient tous les leviers de l'État vénézuélien et y dispose de solides soutiens.
Et les soutiens de Maduro sont aussi à chercher du côté de la Russie et de la Chine.
Oui, des puissances qui seront ce soir autour de la table du Conseil de sécurité de l'ONU et qui dénoncent les violations du droit international à coups de tweets et de déclarations officielles. Moscou est un allié historique de Caracas et lui fournit des armes. Pékin achète le pétrole vénézuélien jusqu'à 70% de ses exportations. Les liens sont forts, anciens, mais le monde change. Chacun a des dossiers majeurs à régler avec les États-Unis. La Russie, sous sanctions américaines, veut s'attirer les bonnes grâces de Trump pour l'emporter en Ukraine. La Chine, elle, se préoccupe surtout de sa rivalité stratégique avec les États-Unis, les yeux rivés sur Taïwan. Bref, le Venezuela est certes un allié, mais fragile, lointain, isolé. Et ça n'est pas ce soir à la ONU que la piraterie façon Trump trouvera son épilogue.
Merci Louise Baudet. Le monde à l'endroit tous les soirs dans Un jour dans le monde. En France, ça fait 22 ans qu'on connaît les radars automatiques le long des routes et on en voit partout ailleurs dans le monde, y compris bien sûr en Italie. Oh, il y avait bien une exception, une seule, dans une grande ville où les routes n'existent pas puisqu'on s'y déplace en bateau. Oui, c'est bien à Venise qu'on va suivre notre correspondant Bruno Duvic. Venise, dotée depuis cet été de radars de vitesse le long des canaux. Il s'agit autant d'une question de sécurité pour les bateaux les plus petits que de préserver la ville elle-même, rongée par les remous que cause toute la circulation.
Lucio Cons est amarré à la sortie de la gare. C'est l'une des figures de l'association Ensemble contre le moto ondoso, ces remous qui sapent Venise. Il nous emmène sur le Grand Canal, aux aires de périphérique parisien, en fin de matinée.
D'ici au canal de Canareggio, c'est un chaos invraisemblable de bateaux. Devant nous, il y a deux vaporetti à la file et même un troisième. Regarde la fumée qui en sort. Entre les taxis, les gondoles, les bateaux de transport, il doit y avoir une quinzaine d'embarcations entre ces deux ponts. Depuis les années 50, le nombre de bateaux à moteur à Venise est passé de 10 000 à plus de 70 000.
Plus il y a de bateaux, plus il y a de remous. Et les conséquences, on les voit sur ce palais, tout près du pont du Rialto.
Tu vois la ligne verte ? Ce sont des algues laissées par les vagues. Il y a une fente entre deux pierres. C'est le mortier qui a été retiré par la houle. À un moment, une pierre tombe et tu réalises qu'il se passe quelque chose. Ça s'écroule de l'intérieur. Nous sommes en train d'effriter Venise.
C'est avant tout pour lutter contre ce phénomène que les radars ont été installés. Lucio ralentit, vitesse limite 7 km/h, pour montrer un de ses engins.
Ça, c'est une caméra pour éviter les sabotages. Il y a un système infrarouge pour les contrôles de nuit, et puis la caméra, à proprement dite.
Les premiers temps, on se croyait revenu à l'époque du Covid, disent les Vénitiens, pour décrire le calme revenu sur les eaux. Et puis les malins ont intégré la carte des radars, la vitesse remonte petit à petit, mais ce n'est rien à côté des zones où il y a peu de radars, comme entre le nord de la Venise historique et l'île de San Michele, le cimetière. 11 km/h autorisé le long des quais, notre petite barque est dépassée par un bolide.
C'est une ambulance privée. Ces bateaux provoquent des remous monstrueux. Il va au moins à 20-25
km/h.
Résultat, 5 vagues qui vont marteler la rive. C'est comme si en ville, tu avais des voitures avec des chenilles qui longent les murs. Cette vague, ça n'a l'air de rien, mais elle fait 70 cm de haut. J'ai aussi une barque à rames qui mesure 25 à 30 cm de hauteur. Avec une vague pareille, je coule.
L'amende pour excès de vitesse est de 138 euros. Les premières semaines, 150 infractions par jour ont été relevées. Le chiffre a baissé depuis. L'adjoint à la mairie en charge du dossier dresse un bilan positif de l'installation. C'est lui qui a porté le projet. Mais Michele Zuin reconnaît qu'il faut faire plus pour limiter la croissance exponentielle des bateaux à Venise.
Un seul exemple. Jusqu'à il y a 10 ans, il n'y avait pas le phénomène commercial type Amazon, ces paquets qu'on apporte à domicile. Vous imaginez à quel point cela a amplifié le trafic? C'est l'enseigne que nous réfléchissons à un système de navire unique pour transporter les diverses marchandises.
25 millions de touristes viennent à Venise chaque année.
Bruno Duvic, reportage à Venise, la Sérénissime qui le redevient un peu avec ses radars. Dans un instant, bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
C'est votre chronique, l'actu du monde resté sous les radars.
Direction le Rwanda où le président Kagame s'en prend aux églises évangéliques.
On retrouve ensuite Caroline Gillet au Pays des 27. Dans quelle dimension de l'Europe nous emmenez-vous? Bonjour Caroline.
Bonjour. Vous avez prévu de faire vos dernières courses de Noël sur les plateformes chinoises? Eh bien, Isabelle Perignon de la Commission veut vous en dissuader.
Caroline et Alice, à tout de suite, nouvelle respiration musical dans Un jour dans le monde, une balade, celle d'Alila Diane, c'est The Pirates Gospel, titre tiré de l'album du même nom sorti en 2006.
People are dancing, I'm gonna keep my eyes.
Alila Dayan, The Pirates Gospel. Et comme c'est de saison et que c'est presque un passage obligé dans le parcours d'un artiste, sachez qu'Alila Dayan a sorti elle aussi un album de chansons de Noël, c'était il y a 2 ans. It's Always Christmas Somewhere. C'est toujours Noël quelque part, c'est vrai, mais c'est quand même surtout le 25 décembre. Et pour l'instant, on est le 23. Et avec Alice Moreno, on ressort l'actu de Sous les Radars. On commence avec le prêche, Alice, tout en douceur, tout en musique, de ce pasteur rwandais.
Le pasteur évangélique Mike Kalambay, qui fait face à une salle comble, des milliers de fidèles sont rassemblés dans une méga-église de Kigali, la capitale rwandaise. Seulement voilà, depuis quelques années, l'église évangélique n'est plus en odeur de sainteté au Rwanda. Le président Paul Kagame ne voit pas d'un bon œil l'adhésion de plus en plus massive de la population à ses paroisses, qui se multiplient à toute allure, et ça depuis la fin du génocide des Tutsis en juillet 1994, plusieurs figures de l'église catholique ayant été complices du régime génocidaire de l'époque. Le succès des évangéliques dérange donc les autorités à tel point que le gouvernement a ordonné la fermeture de 10 000 églises depuis 2018, prétextant un non-respect des règles de sécurité ou des pratiques de corruption. Mais selon plusieurs observateurs spécialistes du pays, c'est bien l'importance grandissante de ces mouvements évangéliques qui effraient le régime. Kagame, à la tête du pays depuis 31 ans, d'abord comme vice-président, puis président, considère qu'un tel potentiel de mobilisation pourrait représenter une menace pour son régime autoritaire dans un État où l'opposition politique est muselée. Outre la puissance potentielle d'un tel mouvement religieux en interne, le régime redoute aussi une ingérence américaine. Les évangéliques américains financent et forment en partie les paroisses qui s'implantent un peu partout dans le monde.
Working together with the museum, we elaborate and expand the knowledge of all those artifacts.
En travaillant ensemble avec les musées, nous étendons les connaissances sur tous ces objets anciens.
C'est en tout cas l'espoir du chef Okey Ikeme de la communauté Igbo, un peuple du sud-est du Nigeria. Il travaille au sein du tout nouveau pôle Afrique du Grand Manchester Museum en Grande-Bretagne. L'administration du musée et plusieurs associations représentant des communautés des pays d'Afrique lancent un projet participatif pour tenter d'identifier l'origine de 40 000 objets anciens entreposés dans des réserves du musée et datant de pillage des colons britanniques sur le continent africain. Aujourd'hui, les informations sur leur provenance, leur signification ou leur utilité sont inexistantes. Le musée appelle donc le public du monde entier à fournir toutes les informations dont ils disposeraient à leur sujet. Chacun est invité à découvrir ces objets désormais exposés dans les galeries de l'établissement et également visibles en ligne sur le site officiel du musée. Les conservateurs affirment que cela pourrait aboutir à la restitution de certaines pièces à leur pays d'origine. Rendez-vous donc sur le site du musée pour partager vos connaissances, figurines, instruments de musique, mobilier. Il est temps de ressusciter l'âme de ces objets et de rendre leur patrimoine aux pays africains victimes des colons européens.
Meus amigos, todo mundo sabe que eu tô morando nos Estados Unidos. Eu achava que isso daqui...
Mes amis, tout le monde sait que je vis aux États-Unis et je pensais que ces tongs étaient un symbole national. J'ai vu plein d'étrangers avec ce petit drapeau brésilien sur leurs pieds. J'avais tort.
C'est la voix d'Eduardo Bolsonaro, le fils de l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro. Il se met en scène dans une vidéo où on le voit se saisir de sa paire de tongs de la célèbre marque brésilienne Havaianas et les jeter à la poubelle. Réaction à une vidéo publicitaire diffusée par la marque sur les réseaux sociaux dans laquelle l'actrice Fernanda Torres, engagée à gauche, fait la promotion de ses tongs en invitant le public à ne pas commencer l'année 2026 du pied droit. Et au Brésil, comme en France, le pied droit, ça équivaut bien sûr au bon pied. Réaction immédiate des conservateurs brésiliens, c'est forcément un message politique selon eux. Résultat, de nombreuses personnalités politiques de droite et d'extrême droite appellent au boycott de la marque. Les travaillistes dénoncent quant à eux des attaques idiotes qui menacent les emplois des ouvriers dans les usines à Havaianas. La guerre des tongs fait rage et ouvre un espace médiatique inattendu à moins d'un an de la prochaine élection présidentielle au Brésil.
La guerre des tongs, voilà un excellent...
La guerre des tongs à Noël.
Exactement, un excellent pied pour votre chronique Alice Moreno sur les radars à retrouver sur l'appli Radio France.
France Inter, le 18-20.
C'est mardi, c'est Caroline au pays des 27 et chaque semaine, Caroline Gillet, vous poussez les portes de l'Europe. Ces jours-ci, on peut dire qu'on consomme beaucoup, ou plus que le reste de l'année, entre courses de cadeaux et approvisionnement de réveillon ou de déjeuner de Noël. Vous avez décidé de faire un tour, Caroline, chez celle qui supervise la consommation de l'Europe et qui veille sur nous, puisqu'elle surveille l'entrée sur le continent des produits non conformes ou dangereux, notamment les jouets. Alors qui est-ce ?
Cette personne, elle s'appelle Isabelle Pérignon. Elle a fait une formation de juriste, mais elle vient à l'origine du Sud-Ouest. Et dans le dernier épisode, on parlait de comment elle était arrivée en Belgique, puis à Bruxelles, dans les institutions, suite à une rencontre avec Christine Lagarde. À l'époque, elle n'était pas prête à arriver dans ce qu'elle appelait le Nord.
Parce que j'étais persuadée qu'on allait avoir très très froid.
Les institutions, pour elle, petite, c'était ça.
J'habitais à la campagne. En fait, la route pour partir de chez mes parents et arriver à l'école, elle passait devant la préfecture. Et le jour, en fait, des manifs contre la PAC, tout le monde était en train « Ouais, à bas l'Europe !» Et on avait des montagnes de fumier devant la préfecture. Bon, on pouvait pas aller à l'école. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'Europe, en me disant « Ah ben ouais, c'est sympa, en fait, je peux rester à la maison. »
Depuis lors, Isabelle a travaillé dans tout plein de bureaux de la Commission, dans le quartier européen. Et il y a toujours, aujourd'hui, des agriculteurs en colère. Mais elle, maintenant, doit quand même travailler les jours de manifestation. Alors dans le dernier épisode, elle parlait de son poste actuel. Elle doit mettre en place des règles pour empêcher les fraudes, les fausses promos, les abus, sans pour autant, dit-elle, tuer le commerce avec trop de règles.
Là, on a réussi, par exemple, Amazon Prime. Il y avait plein de consommateurs qui nous avaient dit « Amazon Prime prévoit un système abonnement, mais c'est super compliqué pour se désabonner, comment on arrive à faire, on n'arrive pas et tout. » Donc on a lancé une enquête avec l'aide de plusieurs pays et on s'est rendu compte qu'en effet c'était compliqué de se désabonner. Et là on a obtenu un accord avec eux en disant, eux se sont rendus compte qu'en fait ils avaient tout intérêt parce qu'il y avait une mauvaise pub contre eux et que maintenant on peut se désabonner en deux clics si on n'est pas content.
Mais Isabelle doit aussi trouver des façons de centraliser les plaintes sur les produits hors normes européennes et dangereux. Une étude en novembre dernier, réalisée par la Fédération européenne du jouet Toy Industries, a révélé que 86% des jouets vendus par des plateformes en ligne non européennes peuvent présenter des risques sévères pour la sécurité et la santé des enfants.
Et donc là, vous avez sélectionné pour moi et pour nos auditeurs et auditrices quelques objets dangereux qu'on peut consulter ensemble.
Tout à fait. Ça, c'est, voilà, c'est pour se déguiser. Enfin, certaines.
Un diadème oreille de Mickey. Les oreilles s'allument.
Ouais. Et donc là, en fait, un enfant sans aucune difficulté ouvre le boîtier avec les piles et les piles.
C'est des petites piles rondes.
Et c'est des plantes, ouais, plates et qui sont extrêmement dangereuses pour les enfants. Et d'ailleurs, il y avait un cas dramatique aux États-Unis que c'est une petite fille qui s'appelait Siv qui est morte malheureusement parce qu'elle a mangé ça. Elle a cru que c'était des petites pastilles. Il devrait faire un boîtier beaucoup plus solide. Ça a été trouvé en fait sur un site finlandais. Donc c'est les Finlandais qui ont demandé le retrait de ce produit.
Quand un produit défectueux ou dangereux est repéré, c'est aux 27 de les retirer de leur marché. Isabelle me montre un objet qui a été signalé par les autorités françaises, un œuf coloré.
C'est un œuf en fait magique.
Qu'elle a plongé dans un verre d'eau.
Eux, ils ont mis que c'était à partir de 3 ans et plus, que c'était amusant, funny, tout ce qu'on veut. Mais en fait, ce qui se passe, alors j'essaie de le tester avant que vous arriviez, Caroline.
Vous êtes bien amusée avant mon arrivée.
Donc j'ai mis un verre d'eau.
Il s'est ouvert.
Donc le œuf
et à l'intérieur.
Oups. Alors, c'est bourré de produits chimiques.
Un dinosaure spongieux.
Donc, c'est une éponge, en fait. Risque de suffocation assez visible. Enfin, surtout, c'est bourré. Donc,
l'eau qui a été en contact avec le dinosaure a pris une drôle d'apparence. Et moi, j'ai mis tout l'après-midi à me débarrasser de l'odeur chimique sur les doigts.
Il y a comme des espèces de
petites bulles. Voilà, donc en tout cas, bonne nouvelle, ces produits-là ont été retirés du marché. Mais...
Les jouets qu'Isabelle a dans son bureau, qu'elle vient de me montrer, ils sont répertoriés sur la plateforme SafetyGate, qui a été mise en place par la Commission. Les pays européens doivent y notifier les produits dangereux qu'ils repèrent pour alerter les voisins et que les 27 puissent à leur tour les interdire sur leur territoire.
Donc ça, c'est les alertes, par exemple, d'aujourd'hui.
On regarde le site ensemble.
On a un jouet en plastique qui vient d'être notifié. Donc c'est les autorités irlandaises.
Temu, la plateforme chinoise. Et il y a marqué effectivement, les figurines des jouets sont de petites pièces. Un petit enfant peut les mettre en bouche et s'étouffer.
Dans la base de données, en fait, on a plus de 40 000 notifications.
Risque chimique sur un kit de peinture au doigt. Ensuite, des gants de boxe pour enfants. Risque chimique. Il y a aussi, là c'est marrant, enfin c'est pas très marrant, mais là il y a un hachoir à viande avec risque de blessure, sans blague. Il y a à chaque fois une petite photo. La main ou les doigts de l'utilisateur peuvent facilement accéder à la vis d'alimentation. Si le broyeur est utilisé, leurs doigts ou leurs mains peuvent être écrasés ou coupés. Ça vient de Turquie. Aïe. Et ça a été repéré par l'Allemagne.
Voilà, donc du coup, ça c'est un outil qui est intéressant et qui après donc, nous permet de vérifier, puisque c'est répertorié, si ces produits en fait, sont toujours en vente sur les sites ou les plateformes. En fait. Et dans ce cas-là, ils sont interdits, il faut qu'ils soient retirés. Sinon, ils s'exposent en fait, à des amendes qui sont donc prises par la DGCCRF et à des poursuites.
Et ça, il y en a beaucoup ? Ça marche bien, ce système-là ? Ou est-ce que...
Le système de retrait des produits, oui. Après, est-ce qu'on arrive à tout couvrir ? Je sais pas. Est-ce que c'est peut-être que l'iceberg, enfin la pointe immergée de l'iceberg. Enfin, moi, je suis adepte de la méthode des petits pas, quoi, comme à l'époque de Jean Monnet, en se disant, on avance de manière progressive. On a lancé des enquêtes contre Temu, contre Shein. C'est une petite goutte dans l'océan, mais je pense qu'il faut vraiment faire des choses. Peut-être ça peut commencer à faire peur aux concurrents qui se disent « Ah bah tiens, ils agissent là, nous on va faire attention. » Et les consommateurs aussi doivent être plus vigilants et se rendre compte qu'il y a des problèmes. Quoi.
Alors j'ai pris des photos de tout ça que je mets sur la page de la chronique bien sûr, et aussi le lien de SafetyGate, pas super simple à manœuvrer, mais où chacun chacune peut faire des signalements.
Merci Caroline Gillet, Caroline au Pays des 27. Toutes vos chroniques sont sur franceinter.fr. La suite du 18-20, c'est le journal de 19h avec Sarah Mansoura qui s'installe en studio. Et puis le téléphone sonne bien sûr. Bonsoir Cécile Bidot.
Bonsoir.
Rédactrice en chef de l'émission. Ce soir, on se demande si on peut encore boire de l'eau en toute confiance.
Entre les PFAS dans l'eau du robinet et les microplastiques dans les bouteilles, quelle eau peut-on verser sans inquiétude aujourd'hui ? Claude nous a déjà écrit sur WhatsApp. Il s'inquiète de la qualité de l'eau à Grenoble, issue d'une nappe phréatique très pure, située juste en aval d'une autre réputée comme la plus polluée de France. Carole, sur l'application Radio France, est choquée que le coût de la dépollution prime sur la santé de la population. L'idée n'est pas de tomber dans l'alarmisme, mais il y a matière à se poser bien des questions. Mm-hmm. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on fait dans le téléphone sonne.
01 45 24 7000, on vous attend aussi sur l'application Radio France.